François Picard, bonjour.
Bonjour.
Comment est née votre passion du voyage ?
Depuis toujours, je voyage. Ma mère m'a mis dans ses valises quand j'avais 9 ans et pour m'amener aux États-Unis où elle a enseigné l'histoire-géographie pendant 2 ans au fin fond du Texas. Et ensuite, nous sommes partis 6 ans au Cameroun et ça a été mes premiers voyages. Et puis, bien sûr, dans ces régions, on a fait d'autres voyages. Et ensuite, je suis parti seul, explorer l'Europe de l'Est, puis je suis parti ensuite de plus en plus à l'Est. J'ai exploré un peu le Moyen-Orient et je crois que quand on commence à voyager, quand on commence à s'intéresser aux autres cultures, c'est comme un fil qu'on tire. On a toujours envie d'en savoir plus et pour comprendre, pour mieux comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez retenu de cette enfance donc entre Afrique et Amérique ?
La différence, tout simplement. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France, j'avais 17, 18 ans en première. J'étais tout de suite assez frappé de voir à quel point les Français étaient fermés sur ce qui était différent de ce qu'ils avaient vu depuis leur enfance. Et pourtant, moi, je revenais avec, dans ma petite tête de gamin ou d'adolescent, un tas de bonnes idées pour faire avancer mon lycée, par exemple. Et tout de suite, c'était non, on se braque, non, c'est pas pour nous, ça marchera jamais, c'est stupide. Donc c'est ce poids, c'est cette inertie de ceux qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller plus loin que le bout de leur nez qui m'a frappé à mon retour.
Cette inertie vous a donné envie de repartir tout de suite. Alors est-ce que voyager, c'est vivre la géopolitique au jour le jour ?
Ça dépend, il y a un tas de manières de voyager. On peut voyager pour aller en vacances, on peut voyager pour aller au bout de soi-même. Moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est d'essayer de comprendre comment les hommes cohabitent, comment ils cohabitent avec leur langue, avec leur culture, avec leur religion, avec leurs barrières sociales également. Donc c'est tout cela qui m'intéresse. Donc évidemment, la géopolitique, ça a une place très importante dans les questions que je vais poser aux personnes que je rencontre.
Ça veut dire que vous leur posez des questions quand vous les rencontrez ?
Je ne fais que ça, je ne fais que leur poser des questions. Évidemment, savoir comment ils vivent, à quoi ils rêvent, ce qu'ils pensent de leurs dirigeants, ce qu'ils pensent de leurs voisins, de ceux qui sont pas tout à fait comme eux, un petit peu différents, etc. Donc oui, moi je suis toujours très curieux.
Pourquoi vous voyagez en vélo ?
Alors, je voyage pas seulement à vélo. C'est vrai que là, j'ai fait 2-3 grosses expéditions à vélo ces 4 dernières années. Mais ça veut pas dire que je voyagerai en vélo toute ma vie. Il s'est avéré que j'ai trouvé que c'était un moyen assez pratique d'aller à la rencontre du pays, puisque ça nous oblige à nous arrêter dans des endroits où on se serait pas arrêté si on avait eu le choix. Quand on est dépendant des transports en commun, des bus, des trains, etc., on s'arrête forcément dans les gros bourgs, on n'a pas de raison de s'arrêter au milieu de nulle part. Et donc du coup, on perd certainement une vision du pays.
Votre premier grand voyage à vélo, c'était où ?
Alors le premier grand voyage à vélo, ça a été une traversée de l'Ukraine, de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan en 2004. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle Odessa-Tashkent, un vélo et des hommes.
Alors, on a parlé tout à l'heure de ce qu'était pour vous le voyage. C'est évidemment une aventure humaine, mais c'est aussi physique dans le cas présent, parce que tout le monde ne peut pas traverser la Chine à vélo.
Oui, effectivement, le vélo, c'est une contrainte que je m'impose à moi-même. Mais en fait, il faut que ce soit un juste équilibre. Hein. Pour pédaler, de toute façon, il faut un équilibre. Et moi, je veille à ce que l'aspect sportif et physique ne prenne pas le dessus sur la curiosité que je peux avoir sur l'ouverture aux autres. Alors, c'est très difficile puisque je vais toujours au bout de moi-même et je traverse vraiment des périodes très difficiles, des ascensions de sommets, etc. Mais je ne m'interdis pas. Mais je ne m'interdis pas à certains moments de dire j'arrête le vélo et je pousse les 100 ou 200 derniers kilomètres en bus. Quand je vois que je suis complètement fermé et que je n'ai plus le désir d'aller à la rencontre des autres tellement je suis fatigué physiquement, là je me dis stop, moi je suis pas parti pour voyager pour souffrir, mais je suis vraiment parti voyager pour m'ouvrir aux autres.
Est-ce que vous vous préparez physiquement avant de partir ?
Non, je me prépare pas physiquement. Ce qui est assez pratique avec le vélo, c'est que bah, si on veut faire 50 km dans la journée, on n'en fait que 50. Et si on a le courage, on va plus loin, on en fait 80, 100, voire plus. Mais on n'est pas astreint à un certain nombre de kilomètres par jour. C'est nous-mêmes, c'est notre corps qui fixons le rythme du voyage.
Pourquoi vous êtes parti en Chine ?
Alors, ça, c'est un peu une histoire personnelle. J'ai commencé mes premiers voyages en Europe de l'Est, puis dans l'ex-URSS. Et puis, ce voyage Odessa-Tachkent, il m'a mené jusqu'en Asie centrale. Ensuite, je suis retourné en Asie centrale plusieurs fois sans prendre mon vélo. Et ça m'a amené aux confins de la Chine, dans le Xinjiang, qui est une partie de l'Asie centrale qui est peuplée donc de turcophones, de kazakhs, etc. Et non pas de chinois, de han. Mais on est dans on est en Chine. Donc à partir de cette première exploration, voilà, j'ai voulu continuer et pousser toujours un peu plus à l'est.
Alors vous avez fait un voyage de 4 mois, 5000 km en Chine. Et comment vous avez choisi votre itinéraire ? Sur quels critères ?
Bah, l'idée, c'était de traverser des Chines très différentes. Et c'est vrai que ça manque pas, puisque la Chine, c'est grand comme 18 fois la France. Il y a des ethnies, des peuples très différents, des langues très différentes, des paysages très différents. Je suis parti d'un paysage désertique, puis j'ai traversé des zones extrêmement humides. Je suis passé de régions turcophones, musulmanes, au Tibet, en passant par le sud avec d'autres croyances animistes. Et puis j'ai terminé à Hong Kong, à Canton, à Shenzhen, dans les villes qui représentent une activité économique extrêmement importante, et qui sont très loin des petits bourgs de province où on a très peu de croissance économique.
Comment ça s'est passé, le Tibet en vélo ?
Alors, le Tibet en vélo, moi je suis allé dans le Tibet occidental, et c'est-à-dire que c'est le plateau tibétain, ce sont pas encore, c'est vrai que quand on imagine le Tibet, c'est l'Himalaya, mais le Tibet, c'est une région beaucoup plus grande que le Tibet officiel, administratif, et moi j'étais sur le plateau tibétain, donc c'est pas forcément là que ça a été le plus difficile physiquement.
Et vous n'avez pas de problème de route, enfin c'est pas interdit, vous pouviez passer avec votre vélo ?
Non, parce que moi j'étais dans la partie qui n'est pas incluse dans la région autonome du Tibet. Donc ça fait que la Chine a une tolérance un peu plus grande vis-à-vis de la culture tibétaine, puisqu'elle sait que même si un jour la Chine doit éclater et si le Tibet doit devenir indépendant, cette partie restera en Chine, même si elle est peuplée majoritairement de Tibétains.
Alors, est-ce que vous préparez minutieusement vos étapes avant de partir, ou c'est la route qui improvise pour vous ? François Picard, bonjour.
Bonjour.
Comment est née votre passion du voyage ?
Bah, depuis toujours, je voyage. Ma mère m'a mis dans ses valises quand j'avais 9 ans, et pour m'amener aux États-Unis où elle a enseigné l'histoire-géographie pendant 2 ans au fin fond du Texas. Et ensuite, nous sommes partis 6 ans au Cameroun, et ça a été mes premiers voyages. Et puis, bien sûr, dans ces régions, on a fait d'autres voyages. Et ensuite, je suis parti seul, explorer l'Europe de l'Est, puis je suis parti ensuite de plus en plus à l'Est. J'ai exploré un peu le Moyen-Orient, et je crois que quand on commence à voyager, quand on commence à s'intéresser aux autres cultures, c'est comme un fil qu'on tire. On a toujours envie d'en savoir plus, et pour mieux comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez retenu de cette enfance donc entre Afrique et Amérique ?
La différence, tout simplement. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France, j'avais 17, 18 ans en première, j'étais tout de suite assez frappé de voir à quel point les Français étaient fermés sur ce qui était différent de ce qu'ils avaient vu depuis leur enfance. Et pourtant, moi, je revenais avec, dans ma petite tête de gamin ou d'adolescent, un tas de bonnes idées pour faire avancer mon lycée, par exemple. Et tout de suite, c'était non, on se braque, non, c'est pas pour nous, ça marchera jamais, c'est stupide. Donc c'est ce poids, c'est cette inertie de ceux qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller plus loin que le bout de leur nez qui m'a frappé à mon retour.
Cette inertie vous a donné envie de repartir tout de suite. Alors est-ce que voyager, c'est vivre la géopolitique au jour le jour ?
Ça dépend, il y a un tas de manières de voyager. On peut voyager pour aller en vacances, on peut voyager pour aller au bout de soi-même. Moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est d'essayer de comprendre comment les hommes cohabitent, comment ils cohabitent avec leur langue, avec leur culture, avec leur religion, avec leurs barrières sociales également. Donc c'est tout cela qui m'intéresse. Donc évidemment, la géopolitique, ça a une place très importante dans les questions que je vais poser aux personnes que je rencontre.
Ça veut dire que vous leur posez des questions quand vous les rencontrez?
Je ne fais que ça, je ne fais que leur poser des questions. Évidemment, savoir comment ils vivent, à quoi ils rêvent, ce qu'ils pensent de leurs dirigeants, ce qu'ils pensent de leurs voisins, de ceux qui sont pas tout à fait comme eux, un petit peu différents, etc. Donc oui, moi je suis toujours très curieux.
Pourquoi vous voyagez en vélo?
Alors, je voyage pas seulement à vélo. C'est vrai que là, j'ai fait trois grosses expéditions à vélo ces 4 dernières années. Mais ça veut pas dire que je voyagerai en vélo toute ma vie. Il s'est avéré que j'ai trouvé que c'était un moyen assez pratique d'aller à la rencontre du pays, puisque ça nous oblige à nous arrêter dans des endroits où on se serait pas arrêté si on avait eu le choix. Quand on est dépendant des transports en commun, des bus, des trains, etc., on s'arrête forcément dans les gros bourgs. On n'a pas de raison de s'arrêter au milieu de nulle part. Et donc, du coup, on perd certainement une vision du pays.
Votre premier grand voyage à vélo, c'était où?
Alors le premier grand voyage à vélo, ça a été une traversée de l'Ukraine, de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan en 2004. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle Odessa Tashkent, un vélo et des hommes.
Alors, on a parlé tout à l'heure de ce qu'était pour vous le voyage. C'est évidemment une aventure humaine, mais c'est aussi physique dans le cas présent, parce que tout le monde ne peut pas traverser la Chine à vélo.
Oui, effectivement, le vélo, c'est une contrainte que je m'impose à moi-même. Mais en fait, il faut que ce soit un juste équilibre, hein. Pour pédaler, de toute façon, il faut un équilibre. Et moi, je veille à ce que l'aspect sportif et physique ne prenne pas le dessus sur la curiosité que je peux avoir sur l'ouverture aux autres. Alors, c'est très difficile puisque je vais toujours au bout de moi-même et je traverse vraiment des périodes très difficiles, des ascensions de sommets, etc. Mais je ne m'interdis pas à certains moments de dire bon bah j'arrête le vélo et je pousse les 100 ou 200 derniers kilomètres en bus. Quand je vois que je suis complètement fermé et que je n'ai plus le désir d'aller à la rencontre des autres tellement je suis fatigué physiquement, là je me dis stop, moi je suis pas parti pour voyager pour souffrir, mais je suis vraiment parti voyager pour m'ouvrir aux autres.
Est-ce que vous vous préparez physiquement avant de partir?
Non, je me prépare pas physiquement. Ce qui est assez pratique avec le vélo, c'est que bah, si on veut faire 50 km dans la journée, on n'en fait que 50. Et si on a le courage, on va plus loin, on en fait 80, 100, voire plus. Mais on n'est pas astreint à un certain nombre de kilomètres par jour. C'est nous-mêmes, c'est notre corps qui fixons le rythme du voyage.
Pourquoi vous êtes parti en Chine?
Alors, ça, c'est un peu une histoire personnelle. J'ai commencé mes premiers voyages en Europe de l'Est, puis dans l'ex-URSS. Et puis ce voyage, Odessa-Tachkent, il m'a mené jusqu'en Asie centrale. Ensuite, je suis retourné en Asie centrale plusieurs fois sans prendre mon vélo. Et ça m'a amené aux confins de la Chine, dans le Xinjiang, qui est une partie de l'Asie centrale qui est peuplée donc de turcophones, de kazakhs, etc. Et non pas de chinois, de Han. Mais on est en Chine. Donc à partir de cette première exploration, voilà, j'ai voulu continuer et pousser toujours un peu plus à l'est.
Alors vous avez fait un voyage de 4 mois, 5 000 km en Chine. Et comment vous avez choisi votre itinéraire? Sur quels critères?
Bah, l'idée, c'était de traverser des Chines très différentes. Et c'est vrai que ça manque pas, puisque la Chine, c'est grand comme 18 fois la France. Il y a des ethnies, des peuples très différents, des langues très différentes, des paysages très différents. Je suis parti d'un paysage désertique, puis j'ai traversé des zones extrêmement humides. Je suis passé de régions turcophones musulmanes au Tibet, en passant par le sud avec d'autres croyances animistes. Et puis j'ai terminé à Hong Kong, à Canton, à Shenzhen, dans les villes qui représentent une activité économique extrêmement importante. et qui sont très loin des petits bourgs de province où on a très peu de croissance économique.
Comment ça s'est passé, le Tibet en vélo ?
Alors, le Tibet en vélo, moi je suis allé dans le Tibet occidental, et c'est-à-dire que c'est le plateau tibétain, ce sont pas encore, c'est vrai que quand on imagine le Tibet, c'est l'Himalaya, mais le Tibet c'est une région beaucoup plus grande que le Tibet officiel, administratif, et moi j'étais sur le plateau tibétain, donc c'est pas forcément là que ça a été le plus difficile physiquement.
Et vous n'avez pas de problème de route, enfin c'est pas interdit, vous pouviez passer avec votre vélo?
Non, parce que moi j'étais dans la partie qui n'est pas incluse dans la région autonome du Tibet. Donc ça fait que la Chine a une tolérance un peu plus grande vis-à-vis de la culture tibétaine, puisqu'elle sait que même si un jour la Chine doit éclater et si le Tibet doit devenir indépendant, cette partie restera en Chine, même si elle est peuplée majoritairement de Tibétains.